Aujourd'hui, je vous invite à écouter un extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 21 à 25. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Éternel, merci pour ta parole. Ta parole qui reste une lumière sur le chemin de notre vie. Béni sois-tu. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le chant du cantique numéro 391. Cantique 391, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel, nous voici devant toi tels que nous sommes. Peut-être parmi nous y a-t-il des habitués de ta parole. Peut-être parmi nous y a-t-il des nouveaux qui entendent ta parole pour la première fois. Certains sont habitués à la rudesse de l'Évangile, d'autres un peu moins. Mais nous ne pouvons pas te rencontrer tout seul. C'est pourquoi tu nous adresses, tu nous envoies, tu nous fais rejoindre des amis, des sœurs, des frères, qui eux aussi sont en marche, qui eux aussi cherchent avec les autres ce que ta parole veut dire. Alors, merci. Merci de donner ton esprit, ton souffle à chacun, chacune, afin que ce moment que nous allons partager autour de ta parole soit un événement qui féconde notre existence. Amen. Amis, frères et sœurs, dans les versets précédant ce texte que nous venons de lire, Jésus interroge ses disciples sur sa personne. Qui dit-on que je suis? Que disent les gens à mon sujet? Les réponses des disciples expriment les opinions du peuple et situent Jésus en le comparant à certains prophètes de la première alliance, comme Jérémie, Élie, ou plus proche d'eux, à Jean le Baptiste. Alors Jésus pose une autre question plus précise. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre donne alors cette parole, « Tu es le Christ ou le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Faisant ainsi le lien avec la notion de Dieu vivant présent dans le Premier Testament, ce Dieu qui s'oppose à toute forme d'idole muette. Pierre semble avoir bien répondu, se voit félicité en quelque sorte par Jésus et se voit confier une mission, celle de construire l'Église plus tard. Mais ce n'est pas le moment de brûler les étapes. Et pour éviter toute méprise, Jésus invite ses disciples à se taire. Cette révélation ne doit pas être divulguée. Puis Jésus enseigne ses disciples, pour qui Jésus est bien un envoyé de Dieu, tout en méconnaissant le caractère profond et décisif de sa mission. Et c'est pourquoi le discours de Jésus est à ce moment précis, celui que nous avons lu, d'une tonalité totalement différente. D'ailleurs, cela provoque des remous entre Pierre et Jésus, mais aussi entre les disciples et Jésus, que je vous propose de reprendre en trois étapes, ces trois étapes qui soutiendront notre méditation. Première étape, la fragilité de Pierre. Après avoir demandé le silence sur le dévoilement de son identité, Jésus parle ouvertement de sa mission. Et ce moment est important car il constitue un tournant dans son ministère. Jésus précise qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il y souffrira de la part des anciens et des maîtres de la loi, qu'il y mourra et qu'il reviendra à la vie le troisième jour. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la première annonce de la Passion. Il y en aura trois. La mission de Jésus passe par quelque chose d'inattendu, d'inouï. Il ira à Jérusalem non pour conquérir, mais pour servir. Et ce service passe par la souffrance qu'il aura à subir, par sa mort et sa résurrection. Mais sa destinée est d'abord de souffrir et de mourir comme tout à chacun et non pas à l'écart ou au sein du groupe des disciples, mais sur la place publique à Jérusalem. Et non pas à cause du pouvoir romain en place à cette époque, mais par un autre pouvoir, celui des anciens, des grands prêtres et des scribes qui représentent l'autorité religieuse de son propre peuple, les siens. Et cela est totalement inaudible pour Pierre. Cela ne coïncide en aucune manière avec l'idée du Messie qu'il a confessée quelques instants auparavant. Alors, il prend Jésus à part et l'interroge, il le réprimande même. Et cette réprimande lui vaut une réaction cinglante de Jésus. « Arrière de moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Jésus n'est pas le Messie que Pierre attend. Pierre n'est pas prêt. Pierre est renvoyé à sa fragilité. Sa confession de foi doit être le point de départ d'un approfondissement et non le point de chute d'un aboutissement. Pierre n'est qu'au début de sa découverte. Et en ce sens-là, il est extraordinaire attachant, son itinéraire est rassurant pour chacun, chacune qui tente de répondre, si peu que ce soit, à l'appel du Christ. Pierre, appelé par Jésus sur le bord du lac, devient pêcheur d'hommes, il va à la découverte de lui-même. Il ne sait pas encore où sa réponse va le mener. Quand Pierre demande à Jésus de pouvoir le rejoindre en marchant sur l'eau, sa peur finit par l'emporter sur son enthousiasme. Il implore le secours de Jésus et Jésus lui reproche son manque de foi. Par ailleurs, Pierre est souvent le porte-parole du groupe des disciples. Quand il demande à Jésus une explication sur une parabole, par exemple, il s'entend reprocher le manque d'intelligence de tous. Au moment de la transfiguration, seul Pierre parle et propose de dresser trois tentes. Là aussi, il se trompe. Et Pierre n'est pas encore au bout de ses peines à sa promesse d'être fidèle à Jésus jusque dans la mort. Jésus lui répond par l'annonce de son reniement. Et c'est cela qui fait de Pierre un être aussi attachant. Il est vulnérable, faillible, fragile, naïf. Il tâtonne, il se trompe, il se surestime, il doute, il a peur. Et c'est en avançant dans sa vie qu'il découvre sa foi, mais aussi ses doutes. Et au-delà de la foi qu'il vient de confesser, la réponse de Jésus lui fait comprendre qu'il lui faudra beaucoup plus de temps avec des étapes dont il ignore tout encore, comme celle du reniement puis de la réconciliation, pour apprendre qui est Jésus et connaître, accepter vraiment ce Jésus-là. Cette connaissance et cette acceptation ne se fondent pas sur la justesse des mots prononcés au moment de sa confession de foi, mais au terme d'un débat, voire même d'un combat qu'il aura avec Jésus jusqu'au bout. C'est une histoire qui commence au cours de laquelle sa foi va se construire, mûrir et s'approfondir. Pierre ne sait pas encore quel homme il va devenir. Dès lors qu'il aura vraiment donné sa réponse et prononcé son oui au Dieu de Jésus-Christ, prolongement mais aussi innovation du Dieu de ses pères. Si là est le destin de Pierre, là aussi est le destin de tout disciple d'hier et d'aujourd'hui. C'est notre destin à nous aussi si nous décidons de répondre à son appel. Et quand Pierre aura vraiment accueilli Jésus comme le sauveur de sa vie, alors il sera le témoin dont parlent les Actes des Apôtres, le fondateur de cette Église primitive, ne craignant même plus de donner sa propre vie comme martyr, même comme témoin, ayant trouvé sa vie en Christ et non plus en ses propres forces. Deuxième étape, la difficulté d'être disciple. La démarche de foi inaugurée par Pierre lui donne une nouvelle identité. Tu es Pierre et une nouvelle mission, je bâtirai mon Église. Donnerait les clés du royaume des cieux, comme nous le trouvons dans le texte précédent. En revanche, avec les versets d'aujourd'hui, un nouveau chemin est proposé. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est un bouleversement radical qui se dessine à l'horizon, qui va changer à jamais les idées de Pierre et aussi celles des nouveaux croyants sur Dieu et sur le monde. Par ses paroles, Jésus inaugure une nouvelle façon de concevoir la relation à Dieu et la relation à l'autre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il cesse de penser qu'à lui, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Dans notre contexte actuel, ces mots comme renoncer à soi, porter sa croix, perdre sa vie font frémir. Ils nous renvoient à une notion plutôt désagréable de sacrifice, ce qui résonne toujours étrangement à nos oreilles. Nous n'aimons pas beaucoup cela. Cela dit, on ne peut oublier que le mot martyr, en grec, martouros, veut dire témoin. Et on ne peut pas oublier que les premiers chrétiens donnaient leur témoignage jusqu'au don de leur propre vie, au moment des persécutions. Force est de constater que nous n'oublions pas non plus les chrétiens d'aujourd'hui persécutés et exécutés à cause de leur foi, dans certaines parties du monde. Alors, qu'en est-il pour nous qui ne nous sommes pas spécialement ou plus menacés? Les paroles de Jésus nous invitent à un changement qui s'apparente plus à un changement de mentalité qu'à un martyr. Et suivre Jésus, c'est quitter un certain confort qui nous paralyse pour aller vers la vie et à la rencontre qui ouvre à la nouveauté et à la créativité. Si nous suivons Jésus, nous devenons des nomades. En fait, nous aurions tort d'oublier que l'Église est constituée essentiellement de témoins nomades qui n'ont pas de lieu où reposer leur tête. Comme les premiers chrétiens étaient des itinérants de la foi et de l'annonce de l'Évangile. Alors que de génération en génération, l'Église en tant qu'institution, toute confession confondue, peine tant à se réformer, alors qu'il y a un appel pressant, urgent à le faire, on peut se demander ce qu'est devenue cette parole. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même. C'est une façon de se souvenir que l'Évangile est le contraire de la tranquillité et de la sécurité. Et c'est le moment de se souvenir aussi qu'il n'y a plus de place pour un ego, encore moins pour un ego surdimensionné. Et c'est bien là toute la difficulté d'être disciple, hier comme aujourd'hui. C'est là toute la difficulté de suivre ce Christ qui nous demande de faire place dans notre vie à un autre que nous-mêmes. Troisième étape, si suivre le Christ et répondre à son appel, cette réponse entraîne un mouvement, un déplacement dans tous les sens du terme. Tout d'abord, c'est découvrir chaque jour davantage qui je suis dans le sens du verbe suivre. Et c'est tous les jours que nous découvrons celui que nous suivons. À travers sa parole rapportée dans les évangiles, qu'il nous faut déchiffrer patiemment. Découvrir, approfondir la prédication du Christ qui lutte inlassablement pour un être humain debout et voir comment cela résonne en nous. Sa prédication nous provoque, nous pousse dans nos retranchements et nous fait sortir de nos idées toutes faites à la fois sur Dieu et sur les êtres humains, parce qu'avec lui, personne n'est indigne de l'amour de Dieu. Avec lui, plus aucune maladie, plus aucune infirmité ne sont liées à une punition divine. Avec lui, les femmes, les enfants et les parias retrouvent une place dans la société civile et religieuse. Les lépreux, les fous, les pauvres, tous ceux que personne ne veut voir, Jésus les place devant nous, à travers les récits des évangiles, pour élargir la loi de Moïse aux dimensions du monde et dire à ce monde, qui était le sien à son époque, mais au nôtre aussi aujourd'hui, pour dire à celui ou celle qui voudra bien l'entendre la valeur infinie de chacune et de chacun. Ce qui fera dire plus tard à l'apôtre Paul que rien, absolument rien, pas même la mort, ne peut séparer l'être humain de l'amour de Dieu manifesté en Christ pour chacun, chacune. Est-ce que nous prenons seulement conscience de la puissance libératrice qui se dégage d'une affirmation comme celle-ci? Surtout quand elle est partagée avec des personnes qui se sentent indignes d'un tel amour, et je pense évidemment aux personnes détenues, par exemple. Les évangiles osent tout, la parole ose tout, et de ce fait, proclamer un tant soit peu ces évangiles, cela revient à soutenir l'action émancipatrice de Dieu en l'homme, comme l'écrivait si justement le théologien et pasteur Raphaël Picon. Alors, suivre le Christ, c'est effectivement abandonner quelque chose de soi-même pour accueillir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est non seulement Jésus, mais je découvre aussi qui je suis, moi, dans le sens du verbe être. Toi, moi, cette nouvelle personne que je découvre marchant à sa suite, mettant ses pas dans les siens, n'avançant plus les chines courbées et la tête baissée, mais comme quelqu'un déjà de sauvé et de ressuscité, regardant droit devant. Cette nouvelle personne que je deviens, non de manière prétentieuse, mais éclairée de la lumière d'une relation nouvelle avec lui et avec les autres, essayant à mon tour, tant bien que mal, d'ouvrir le chemin à celles et ceux que je rencontre, travaillant sans relâche là où d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants sont en attente d'une parole qui libère, là où d'autres personnes sont en souffrance, en esclavage, en solitude de tout genre, attendent un geste qui soulage. Croire que le christianisme n'est pas seulement une religion, mais aussi un humanisme. Aimer Dieu de tout son cœur, avons-nous dit au début de ce culte. Certes, mais aussi aimer son prochain comme soi-même. Croire en Dieu, écrivait encore Raphaël Picon, c'est croire en l'homme dans toute la justice, la beauté et la vérité dont il est capable, c'est-à-dire dans toute sa grâce. Amen.